Merci Will. C'était donc Suddenly I See de Katie Tunstall, qui juxtapose dans le film les rituels matinaux d'Andy avec ceux de toutes les femmes auxquelles elle se mettra à ressembler une fois au service de Miranda. Et c'est trop cool. Malgré un titre qui évoque fortement Anna Gavalda, le prochain film n'est pas du tout à l'autre rose. Dans Il y a longtemps que je t'aime, de 2008, Léa, Elsa Silverstein, accueille chez elle sa sœur Juliette, Christine Scott Thomas, relâchée après 15 ans de prison pour le meurtre de son fils. Le réalisateur, Philippe Claudel, a par la suite écrit un petit livre avec le script original, des anecdotes sur le tournage et des sections traitant de différents thèmes, dont un sur les livres. Et si nous avons demandé à Thomas de Il regarde le monde tourner de lui prêter sa voix, ce n'est pas seulement pour étoffer notre trio et pour ses rires retentissants, mais tout simplement parce qu'il adore ce film.
Vous voyez toujours le monde à travers les livres, vous.
Ils m'ont beaucoup aidé, les livres. Parfois, ils font mieux que les hommes, vous ne pensez pas?
C'est un film d'écrivain. Dans le sens où il montre l'importance que les livres peuvent avoir dans nos vies. Les livres, comme la maison, sont des personnages du film. Ils y tiennent un rôle essentiel. On les voit presque partout. J'avais envie de cette présence physique. Et j'avais envie d'exprimer combien la place des livres dans nos existences peut se révéler essentielle. Les livres qui sont un peu plus mis en évidence témoignent quant à eux de goûts très personnels. Papy Paul, dont la chambre ressemble à une cellule tapissée de livres, lit Sylvie de Nerval. Lorsque Juliette entre dans sa chambre et qu'elle lui avoue qu'elle a beaucoup lu ce livre, elle aussi.
En prison, je mettais toujours des livres à côté de mon oreiller. Je savais qu'ils étaient là et ça me rassurait. Une sorte de rempart. De l'autre côté, il y avait le monde. Oh, Sylvie. Qu'est-ce que j'ai pu lire, celui-là ?
Sylvie n'a en réalité pas grand rapport avec l'histoire du film. Sinon que la nouvelle compte le retour du narrateur vers un être perdu qu'il a aimé jadis. Mais il en a énormément avec la mienne. C'est une rêverie poétique à laquelle j'ai toujours été très sensible. Et l'œuvre de Gérard de Nerval a contribué à me faire tel que je suis. Comme celle de Julien Gracq, pour d'autres raisons. Et c'est pour cela que j'ai placé un album qui lui est consacré sur le bureau de Luc. Juliette le feuillette lorsqu'elle fait le tour de la maison. Sur sa table de chevet, j'ai rassemblé des livres que j'aime beaucoup. L'invention de Morel, de Bioy Casares, Elisa, de Jacques Chauviré, qui a ramené Doruntine, d'Ismaël Kadaré, et Triste revanche, de Yoko Ogawa. Michel, pour sa part, évoque devant Juliette le dernier roman de Giono, dans lequel un personnage, muré dans son silence, est surnommé l'absente.
Dans un roman de Giono, je crois bien que c'est le dernier, il y a un très beau personnage de femme, complètement muré dans son silence. Elle s'appelle l'absente. Le personnage principal en est fou amoureux.
Il ne cite pas le titre du livre, L'Iris de Suze, mais on le retrouve dans une séquence finale. C'est le livre dont Juliette termine la lecture, apaisée, sur un banc du parc. Bref, presque tous les personnages ont un rapport avec les livres. C'est peut-être un des rares aspects militants de ce film, clairement avoué en tout cas. À l'heure où beaucoup se plaignent qu'on ne lit plus, je voulais montrer des vies traversées, nourries, soutenues par les livres. Et j'étais très heureux de voir la conséquence immédiate de la présence de livres dans la maison. Des membres de l'équipe les touchaient, les regardaient, en lisaient quelques pages ou les emportaient le soir à l'hôtel. Ils cessaient alors d'être des choses inertes et de simples éléments de décor. Ils avaient une existence.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Merci Tom. Virgule évidemment extraite du film dans laquelle Juliette joue pour ses nièces la fameuse comptine à la Claire Fontaine. C'est dans ces moments-là qu'on regrette d'avoir un frère qui vous a implanté des paroles plus cabreuses dans la tête à propos de Jeannette et d'un poireau. Chanson paillarde à part, c'est vraiment un très beau film. Et j'arrête de vous raconter ma vie pour céder le fauteuil du réalisateur à Willem, métaphoriquement, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges confortables en studio mobile et il n'y a pas question que je me lève, qui s'occupe de la discussion autour d'un extrait des Faux-monnayeurs d'André Gide. Je rappelle que Will travaille sur Gide pour son mémoire, donc nous sommes en de bonnes mains.
Il sort de sa valise ce carnet. De sa poche, il sort un stylo. Il écrit. Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes appartiennent au cinéma. Il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui, vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur, et en art, comme partout, la pureté seule m'importe, est à s'en occuper. Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est que Gide, qui écrit quand même au début du XXe siècle, donc au tout début du cinéma, montre le fait qu'il y a une différence entre le cinéma, les moyens du cinéma et les moyens de la littérature, entre, enfin, spécifiquement. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant par rapport à l'adaptation, puisque pour raconter une histoire au cinéma qui vient d'un livre, il faut mettre en œuvre des moyens différents de ceux qu'on a justement dans la littérature. Donc, on pourrait par exemple voir justement le traitement des histoires qui se développent autour de Virginia Woolf dans The Hours.
En fait, dans le scénario original de Mrs. Dalloway, donc c'était Clarice Dalloway qui prépare une soirée et qui à la fin se suicide. Et Virginia Woolf, elle a déjà séparé en deux personnages, donc d'une part Mrs. Dalloway et d'autre part Septimus, un homme qu'on suit à travers sa journée et qui à la fin se suicide. Et bah, justement, dans le film, et probablement dans le roman adapté de Cunningham, ça devient à la fois l'écrivain, la femme qui lit le roman, la femme qui vit le roman. Donc, t'as vraiment un éclatement de la perspective. Et je trouve que ça rend bien hommage, justement, à l'esprit du livre.
On pourrait peut-être dire que ce qui rend hommage, c'est qu'ils n'ont pas forcément repris la diégèse originale, mais qu'ils ont repris des façons de voir qu'a Virginia Woolf, et surtout des techniques de montage qu'on peut avoir donc avec le courant de conscience dans le livre, et là qu'ils ont essayé de transposer à l'autre média qu'est le cinéma, et ça c'est un bel hommage, je pense.
Ouais.
Ce qui est assez intéressant justement par rapport à Il y a longtemps je t'aime, c'est que c'est un film d'écrivain. Est-ce qu'il y a justement cette espèce de volonté de cinéma qui est très loin du roman pur, parce qu'il y a certains écrivains quand ils font des films, après ils écrivent une histoire. Pour Philippe Claudel, le moyen de le faire passer en livre, c'était plutôt de faire avec le scénario, une sorte d'encyclopédie en quelque sorte, qui a sous-titré « Petite fabrique des rêves et des réalités ».
Oui, c'est le pendant d'un film qui est militant. Alors, il le dit dans cet extrait de livre, c'est un film d'écrivain. On lui doit notamment des livres comme le rapport Brodeck, qui avait été le Goncourt des lycéens. Donc, c'est un écrivain qui, ici, s'essaye au cinéma et qui a décidé de véritablement, non pas d'être un romancier qui fait du cinéma, mais vraiment un cinéaste, réalisateur. Et c'est pourquoi il n'est pas parti d'un livre qu'il aurait pu écrire avant, mais qu'il est vraiment parti d'un scénario, et c'est ça qu'il veut montrer dans le livre même, puisque finalement le livre il est centré sur le scénario, et avant il y a un petit abécédaire dont j'ai lu un extrait.
C'est intéressant parce qu'il y a souvent une sorte d'opposition entre la littérature et le cinéma finalement, enfin pas forcément d'opposition mais de confrontation en tous les cas, qui est assez bien mise en avant dans l'invention de Morel, puisque justement le fait de filmer quelque chose le fait mourir dans l'histoire en fait, donc finalement ce qui est acquis dans le cinéma meurt dans le livre, en tout cas.
Oui, bah c'est aussi surtout une manière... c'est un roman fantastique, mais d'utiliser ce médium du cinéma, parce que c'est là, il y a bien une espèce de caméra qui filme les personnages et qui après crée un double, donc une espèce d'hologramme. Et tout ce qui est intéressant, c'est que c'est l'artefact absolu, puisque c'est l'illusion de la vie, puisque le narrateur se laisse lui-même avoir par cette illusion. Il tombe amoureux de Faustine, donc une femme qui vit sur cette île, mais qui n'est qu'une image. Et il y a à la toute fin, enfin le dénouement du livre, désolé, spoiler alert, donc il va comprendre, grâce à toute cette série de tests, le mécanisme de l'appareil, et il va lui-même se filmer. Donc il va mimer, en fait, il va étudier tout le scénario finalement qui régit le mouvement des personnages. Il va pendant une semaine entière se filmer en faisant des mouvements qui donnent l'illusion qu'il vit une vie commune aux autres personnages. Alors qu'en fait, c'est deux réalités qui sont séparées. Et ça finit dans cette espèce de paradoxe assez dramatique qui est qu'il va vivre avec la femme qu'il aime alors qu'elle ne le voit pas. Je trouve que c'est une manière intéressante, justement, là, c'est la scène inverse, d'utiliser les ressorts du médium cinématographique mais en littérature.
Et puis en plus, ça permet de montrer que le cinéma, c'est aussi, bon, comme la littérature, un lieu où on peut superposer des réalités, notamment dans l'extrait de Romain Gary, justement c'est ça, c'est que le petit enfant ne fait pas la différence entre ce qu'il entend, qui est du cinéma, et ce qu'il vit. Et justement, c'est ce qui provoque cette espèce de scène un peu comique où il a l'impression qu'on tue 5 ou 6 fois la même personne, alors qu'en fait, c'est juste la réalité du cinéma qui se confond avec sa réalité, on va dire, romanesque.
Je trouve dans le roman, c'est assez beau cette image de ce retour en arrière, finalement, c'est cette femme qui se relève et cette mort qui s'annule.
Enfin, on a choisi justement des exemples qui ne sont dans la majorité pas des adaptations, pas des livres qui ont été adaptés en film, parce que ça c'est trop facile. On a un peu l'inverse là avec Claudel, avec le petit livre. Mais le problème avec notre époque, c'est que la plupart des livres sont écrits dans l'idée qu'après il y aura une adaptation en film, puisque la plupart des films qui sortent, en tout cas dans les blockbusters, ne sont pas des films originaux, mais soit des suites, soit des adaptations de livres.
Oui, et en plus du côté commercial que tu soulignes, il y a aussi le côté fondamentalement négatif pour le cinéma lui-même, puisqu'en fait, ça fait du cinéma un art secondaire qui vient après donc le livre.
Ça a aussi un effet pervers dans le sens où il y a aussi beaucoup de livres qui sont connus grâce à l'adaptation cinématographique. Par exemple, Le Diable s'habille en Prada, j'aurais jamais, ne serait-ce que touché le bouquin si j'avais pas vu le film en fait. Et bon, grand mal m'en a pris puisque voilà. Mais bon, c'est vrai que ça a aussi justement cet effet aussi inverse de diminuer un petit peu le livre par rapport au film. Ce qu'on voit aussi pas mal avec les livres où la couverture c'est l'affiche du cinéma.
Enfin, on verra plus tard un extrait de Apocalypse Now. Et là, c'est l'exemple même de la bonne adaptation. Puisque là, on a une adaptation qui est très libre, puisque c'est une transposition dans un autre univers, mais qui reprend l'univers esthétique et finalement l'aspect métaphysique du roman, et qui là, pour le coup, sert vraiment le cinéma.
Mmh. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a deux manières de bien adapter un livre. C'est-à-dire soit s'en écarter complètement et faire comme Apocalypse Now, soit être ultra fidèle au livre, comme ça peut rarement arriver, mais ça arrive parfois.
Mais on peut se demander, dans ce cas-là, pourquoi transposer ?
C'est par exemple des écrivains qui se sont posé la question, et alors Flaubert, qui n'a pas connu le cinéma, mais qui était contre l'illustration, donc pensez à ça, et Marguerite Duras, qui, elle, a connu le cinéma, écrivait dans Le Camion, « Le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire, bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif, la fixation de la représentation une fois pour toutes et pour toujours, en gros, mort au cinéma, mort aux adaptations. »
Ça un peu avec Echnos, peut-être.
Echnos, je trouve qu'il s'amuse avec ça, puisque c'est un roman qui parle, qui reprend les codes du cinéma et de la télévision, mais qui en même temps est absolument inadaptable parce qu'il est, enfin, il y a pas d'ancrage pour le médium cinéma dans ce roman. Et donc, je pense que c'est plutôt un jeu, et en même temps, c'est aussi l'inverse, puisqu'il reprend. C'est le roman qui va s'enrichir de cet univers qu'est le cinéma et de cette culture cinématographique.
Des grandes blondes.
Tout à fait. Et après, dans l'extrait de Salman Rushdie qu'on va lire après, c'est un peu le même principe, c'est où le roman là va un peu vampiriser le cinéma.
Oui, c'est un truc qui se fait assez aussi en ce moment, le roman qui s'est toujours fait, mais peut-être un peu plus fortement maintenant, de vampiriser tous les domaines scientifiques, médicaux, etc. pour renouveler un peu.
Tout simplement parce que c'est le propre du roman. Le roman dégénère, donc il a besoin pour évoluer de prendre et de faire sien la photographie, la peinture, le cinéma, certainement bientôt Internet et tout ce qui viendra après.
Et pour se renouveler, le roman a aussi besoin de vampiriser nos voix, dont nous espérons, le lecteur, t'avoir fait vivre des expériences cinématographiques haute en couleur et en 3D avec nos lectures.
En virgule, Théa Lamante, du groupe de rap français La Caution, en version instrumentale utilisée dans la danse des lasers effectuée par Vincent Cassel dans Ocean's 12. Suggestion de Robin. Malgré son titre, le roman de Gilles ne parle pas de faux monnayeurs, mais nous avons à nouveau privilégié une virgule détonnante parmi les propositions de chanteurs morts. Et puis voilà dans une ambiance plus ou moins orientale, qui aidera à la transition vers notre dernier extrait, Les enfants de minuit, de Salman Rushdie. Oui, je sais que l'Inde n'est pas à côté du Maroc, je suis nulle en géographie, mais pas à ce point-là non plus. Écoutez plutôt, lecture de Camille, traduction de Jean Guilouano.
Dans ce passage, le narrateur surprend sa mère dans un café avec ce qui est vraisemblablement son amant. Incapable de regarder le visage de ma mère, je me concentrais sur le paquet de cigarettes, allant du plan d'ensemble des amants jusqu'au gros plan de nicotine. Mais des mains entrent dans le champ. Tout d'abord les mains de Nadir Kazim, leur douceur poétique était quelque peu calleuse maintenant. Des mains qui tremblent comme la flamme d'une chandelle qui rampe sur la toile cirée et qui recule. Puis des mains de femmes, noires comme le jet, qui avancent, pouce après pouce, comme d'élégantes araignées. Des mains se lèvent, elles quittent la toile cirée, puis elle plane et commence la plus étrange des danses, s'élevant, retombant, tournant l'une autour de l'autre, des mains désirant caresser, des mains étirées, tendues, frémissantes, demandant à être, mais finissant toujours par reculer, l'extrémité des doigts évitant de toucher l'extrémité des doigts, parce que ce que je suis en train de regarder sur ma vitre écran sale de cinéma n'est après tout qu'un film indien, dans lequel tout contact physique est interdit, de peur que cela corrompe la fleur de la jeunesse indienne. Et il y a des pieds sous la table, et des visages au-dessus, des pieds avancent vers des pieds, des visages s'inclinent doucement vers des visages, mais se recule soudain, coupé par la censure. Deux étrangers, chacun d'eux portant un nom de cinéma qui n'est pas celui de sa naissance, jouent leur rôle à moitié désiré. Ce que j'ai vu en dernier, la main de ma mère levant un verre à demi plein d'excellents lassis. Les lèvres de ma mère se pressent doucement sur le verre taché avec nostalgie. Les mains de ma mère tendent le verre à son Nadir Kazim, qui pose sa bouche poétique sur l'autre côté du verre. Ainsi, la vie imitait l'art de mauvaise qualité, et la sœur de mon oncle Anif apporta l'érotisme du baiser indirect dans le café du pionnier Versal, éclairé au néon. «
Merci Camille.
Le titre de la chanson, c'est Chale Chai Se Hawaiian du film Mein Hun Na. Je ne sais pas prononcer l'hindi.
Je crois que je l'avais vu avec des sous-titres et que ça parlait d'abeilles et de cœur à prendre. Enfin, je me souviens plus. Le monde étrange des comédies musicales où lorsque les ados populaires se mettent à chanter dans la cour, tous les autres dansent derrière eux au lieu de les lapider avec des œufs pourris. Et gloire à Chuck Norris! Cette émission touche à sa fin, plus besoin de chercher des transitions du même genre. Vous pouvez à présent mettre à l'épreuve nos comparaisons en allant regarder un film ou bien en fourrant les dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble et aucunement sponsorisée par des marques de bière, des confiseries ou par des acteurs individuels. Playlist composée en grande partie par Camille et Robin, toujours fidèles derrière cette table de mixage. Merci d'être là. Montre-moi le t-shirt du jour. L'affiche du film Robocop des années 80. Robocop qui sort de sa voiture et est marqué dans le coin Part Man, Part Machine, All Cop. Merci également à Thomas de s'être joint à nous malgré son planning chargé d'agrégatif. Rendez-vous dans 2 semaines pour une émission sur le thème C'est pas la taille qui compte. Oui, je sais ce que vous pensez. Pour ceux qui ont des propositions de lecture insolite, vous pouvez laisser un message dans les commentaires ou sur la page Facebook de Transistor, mais si c'est trop sale, je les lirai pas. D'ici là, je vous conseille l'émission C'est dans la boîte pour en parler un peu plus et un peu plus érudiment de cinéma. Et personnellement, je ne vous conseille pas La Belle et la Bête de Christophe Gans, mais Thomas n'est pas d'accord avec moi, donc je vais m'abstenir de faire des commentaires négatifs. Pour finir, la dernière page de la nouvelle Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad, VO de moi, VF de Camille, d'après la traduction d'André Reuters. Marlowe arrive au terme de son récit et raconte comment, revenu de l'enfer africain et hanté par le souvenir de Kurtz, il rend visite à la fiancée de celui-ci. Et avant, une virgule tirée du film Apocalypse Now de Coppola. Pas la chevauchée des Valkyries que vous avez déjà entendue dans l'épisode 3, mais la chanson The End du groupe The Doors, qui paradoxalement ouvre le film. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. To the very end, I said shakily. I heard his very last words.
Je m'arrêtais, saisi. Répétez-les, murmura-t-elle d'un ton accablé. Je veux avoir quelque chose avec quoi je puisse vivre.
Something to live with.
I was on the point of crying at her. Don't you hear them?
L'obscurité autour de nous ne cessait de les répéter dans un chuchotement persistant, dans un chuchotement qui semblait s'enfler de façon menaçante, comme le premier bruissement du vent qui se lève.
The horror.
L'horreur.
The horror.
L'horreur. Son dernier mot, que j'en puisse vivre, reprit-elle. Ne comprenez-vous donc pas que je l'aimais ? Je l'aimais. Je l'aimais.
I pulled myself together and spoke slowly. The last word he pronounced was your name.
Je perçus un léger soupir, et mon cœur ensuite cessa de battre, comme arrêté net, par un cri exultant et terrible.
By the cry of inconceivable triumph and of unspeakable pain.
Je le savais.
I knew it. I was sure.
Elle savait. Elle était sûre. Je l'entendis sangloter. Elle avait caché son visage dans ses mains. J'ai eu l'impression que la maison allait s'écrouler avant que je n'eusse le temps de m'esquiver, que le ciel allait choir sur ma tête, mais rien de pareil.
The heavens do not fall for such a trifle. But they have fallen, I wonder, if I had rendered cause that justice which was his due.
N'avait-il pas dit qu'il ne demandait que justice ? Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais lui dire.
It would have been too dark altogether.
Marlowe s'arrêta et demeura assis à l'écart, indistinct et silencieux, dans la pose de Bouddha qui médite. Personne, pendant un moment, ne fit un mouvement. Nous avons manqué le premier flux de la marée, fit l'administrateur, tout à coup. Je relevai la tête.
The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an overcast sky, seemed to lead into the heart
semblait mener vers le cœur même d'infinies ténèbres.
Of an immense darkness.